Chapitre 29. 24 heures après sa lettre, Thérèse venait de Dinard à la petite maison des Ternes. Il ne lui avait pas été difficile de trouver un prétexte pour aller à Paris. Elle avait fait le voyage avec son mari, qui voulait revoir dans l'Aisne ses électeurs travaillés par les socialistes. Elle surprit Jacques, le matin, à l'atelier, tandis qu'il ébauchait une grande figure de Florence, pleurant au bord de l'Arnaud sa gloire antique. Le modèle, assis sur un tabouret très haut, gardait la pose. C'était une longue fille brune. La lumière crue qui tombait du vitrage, précisant les lignes pures de la hanche et des cuisses, accusait le visage dur, le cou noir, la poitrine marbrée, le ventre jaune, les genoux grimaçants et les pieds dont les doigts chevauchaient. Thérèse la regardait, curieuse, démêlant la forme exquise sous les misères de la chair mal nourrie et mal soignée. De Chartres, aux mains l'ébauchoir et la boulette de glaise, vint au-devant de Thérèse, avec un air de tendresse douloureuse dont elle fut émue. Puis, posant la terre et l'outil au bord du chevalet, et recouvrant la figure d'un drap mouillé, il dit au modèle: « Ma fille, c'est assez pour aujourd'hui. » Alors elle se leva, ramassa gauchement ses habits, une poignée de lainage sombre et de linge sale, et alla se rhabiller derrière le paravent. Cependant, le sculpteur, ayant trempé dans l'eau d'une terrine verte ses mains où blanchissait la glaise tenace, sortit de l'atelier avec Thérèse. Ils passèrent sous le platane, qui des écailles de son tronc écorché jonchait le sable de la cour. Elle dit: « Vous ne croyez plus, n'est-ce pas ?» Il la conduisit à sa chambre. La lettre écrite de Dinard avait déjà adouci les impressions pénibles. Elle était venue au moment où, las de souffrir, il avait besoin de calme et de tendresse. Quelques lignes d'écriture avaient apaisé son âme, nourrie d'images, moins sensible aux choses qu'aux signes des choses. Mais il lui restait au cœur une courbature. Dans la chambre où tout parlait pour elle, où les meubles, les rideaux, les tapis disaient leur amour, elle murmura des paroles très douces. « Vous avez pu croire, mais vous ne savez donc pas ce que vous êtes. C'était une folie. Comment une femme qui vous a connue pourrait-elle supporter un autre après vous ?» « Oui, mais avant. »« Mais avant, je vous attendais. »« Et il n'était pas au cours de Dinard ?» Elle ne croyait pas. Et ce qui était bien sûr, c'est qu'elle n'y était pas, elle. Les chevaux et les hommes de cheval l'ennuyaient. « Jacques, mais ne craignez personne, puisque vous n'êtes comparable à personne. » Il savait, au contraire, le peu qu'il était et le peu qu'on est dans ce monde, où les êtres agités comme dans le vent, les grains et la balle, sont mêlés et séparés par la secousse du ruste ou du dieu. Encore, cette idée du vent agricole ou mystique représentait trop bien la mesure et l'ordre pour qu'elle puisse s'appliquer exactement à la vie. Il lui semblait que les hommes étaient des grains dans la cuvette d'un moulin à café. Il en avait eu la sensation très vive l'avant-veille, en voyant Madame Fuselier moudre le café dans son moulin. Thérèse lui dit: « Mais pourquoi n'avez-vous pas d'orgueil ?» Elle ajouta peu de mots, mais elle parlait avec ses yeux, ses bras, avec le souffle qui élevait et abaissait sa poitrine. Dans l'étonnement heureux de la voir et de l'entendre, il se laissa convaincre. Elle lui demanda qui avait dit cette parole odieuse. Il n'avait aucune raison de le lui cacher. C'était Daniel Salomon. Oh, elle n'était pas surprise. Daniel Salomon, qui passait pour ne pouvoir être l'amant d'aucune femme, voulait du moins se mettre dans l'intimité de toutes et savoir leurs secrets. Elle devinait pourquoi il avait parlé. « Jacques, ne soyez pas fâché de ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas très adroit pour cacher vos sentiments. Il a soupçonné que vous m'aimiez et il a voulu s'en assurer. » Je suis sûr que maintenant il n'a plus de doute sur nos relations, mais cela m'est bien indifférent. Au contraire, si vous saviez mieux dissimuler, je serais moins tranquille. Je croirais que vous ne m'aimez pas assez. » De peur de l'inquiéter, elle passa vite à d'autres idées. « Oh, je ne vous ai pas dit combien votre ébauche m'a plu. C'est Florence, au bord de l'Arnaud. Alors, c'est nous ?»«
Oui, j'ai mis dans cette figure l'émotion de mon amour. Elle est triste et je voudrais qu'elle fût belle. Voyez-vous, Thérèse, la beauté est douloureuse. C'est pourquoi, depuis que ma vie est belle, je souffre. »
Il fouilla la poche de sa veste de flanelle et en tira son étui à cigarette. Mais elle le pressa de s'habiller. Elle l'emmenait déjeuner chez elle. Il ne se quitterait pas de la journée. Ce serait délicieux. Elle le regarda avec une joie enfantine. Puis elle s'attrista, songeant qu'il lui faudrait à la fin de la semaine retourner à Dinard, ensuite aller à Joinville et que pendant ce temps, ils seraient séparés. À Joinville, chez son père, elle le ferait inviter pour quelques jours, mais il n'y serait pas libre et seul comme à Paris.
« C'est vrai, dit-il, que Paris nous est bon dans son immensité confuse. »
Et il ajouta, « Même en ton absence, je ne peux plus quitter Paris. Il me serait odieux de vivre dans des pays qui ne te connaissent pas. Un ciel, des montagnes, des arbres, des fontaines, des statues qui ne sauraient pas me parler de toi n'auraient rien à me dire. » Pendant qu'il s'habillait, elle feuilletait un livre qu'elle avait trouvé sur la table. C'était « Les mille et une nuits ». Des gravures romantiques étalées çà et là dans le texte, des vizirs, des sultanes, des eunuques noirs, des bazars, des caravanes. Elle demanda « Les mille et une nuits, ça vous amuse ?»«
Beaucoup, répondit-il en nouant sa cravate. Je crois, quand je veux, à ces princes arabes dont les jambes sont devenues de marbre noir, et à ces femmes de harem qui errent la nuit dans les cimetières. Ces contes me donnent des rêves faciles, qui font oublier la vie. Hier soir, je me suis couché tout triste et j'ai lu dans mon lit l'histoire des trois Calender Borgia. »
Elle dit avec un peu d'amertume, « Tu cherches à oublier. » Moi, je ne consentirais pour rien au monde à perdre le souvenir d'une peine qui me vient de toi. » Ils descendirent ensemble dans la rue. Mais elle devait prendre une voiture un peu plus loin et le précéder chez elle de quelques minutes. « Mon mari vous attend à déjeuner. » Ils parlaient en chemin de choses petites que leur amour faisait grandes et charmantes. Ils arrangeaient leur après-midi pour y mettre l'infini de la joie profonde et du plaisir ingénieux. Elle le consultait sur ses toilettes. Elle ne se décidait pas à le quitter, heureuse d'aller avec lui et par les rues qu'emplissait le soleil et la gaieté de midi. Arrivés à l'avenue des Ternes, ils découvrirent devant eux, sur l'avenue, des boutiques étalant côte à côte à l'envi une abondance magnifique de vivres. C'étaient des chapelets de volailles à la porte du rôtisseur et chez le fruitier des caisses d'abricots et de pêches, des paniers de raisins, des tas de poires. Des voitures de fruits et de fleurs bordaient la chaussée. Sous l'auvent vitré d'un restaurant, des hommes et des femmes déjeunaient. Thérèse reconnut parmi eux, seule à une petite table, contre un laurier en caisse, Choulette, qui allumait sa pipe. L'ayant vue, il jeta superbement une pièce de 100 sous sur la table, se leva, salua. Il était très grave. Sa longue redingote lui donnait un air de décence et d'austérité. Il dit qu'il aurait bien voulu aller voir Madame Martin à Dinard, mais il avait été retenu en Vendée auprès de la marquise de Rieux. Cependant, il avait donné une nouvelle édition du Jardin clos, augmenté du Verger de Sainte-Claire. Il avait touché des âmes qu'on eût cru insensibles, fait jaillir des sources dans les rochers. « De la sorte, dit-il, j'ai été une manière de Moïse. » Il fouilla dans sa poche et tira de son portefeuille une lettre usée et tachetée. Ah, « Voici ce que m'écrit Madame Raymond, l'académicienne. Je publie ces paroles parce qu'elles sont à sa louange. » Et, déployant les minces feuillets, il lut.
J'ai fait connaître votre livre à mon mari qui s'est écrié « C'est du plus pur spiritualisme !» Voilà un jardin clos qui, du côté des lys et des roses blanches, a bien, j'imagine, une petite porte qui s'ouvre sur le chemin de l'académie. Choulette goûta ces paroles mêlées dans sa bouche au parfum de l'eau-de-vie et remit soigneusement la lettre en son portefeuille. Madame Martin félicita le poète d'être le candidat de Madame Raymond. « Vous seriez le bien, Monsieur Choulette, si je m'occupais des lectures académiques. Mais est-ce que l'Institut vous fait envie ?» Il garda quelques instants un silence solennel, puis « Je vais de ce pas, madame, conférer avec diverses notabilités du monde politique et religieux qui habitent Neuilly. La marquise de Rieux me presse de poser ma candidature. Dans son pays, un siège sénatorial devenu vacant par la mort d'un vieillard qui fut dit au général durant sa vie illusoire. Je vais consulter à cet égard des prêtres, des femmes, des enfants, aux sagesses éternelles, boulevard Binot. Le collège où je briguerai les suffrages se trouve dans une terre ondulée et boisée où les saules et tétés portent les champs. Il n'est pas rare de trouver au creux d'un de ces vieux saules le squelette d'un chouan, pressant encore son fusil et son chapelet entre ses doigts décharnés. Je ferai coller ma profession de foi sur l'école des chênes. On y lira « Paix au presbytère, vienne le jour où les évêques, ayant aux mains la crosse de bois, se feront semblables aux plus pauvres, les servants de la plus pauvre paroisse. Ce sont les évêques qui ont crucifié Jésus-Christ. » Il se nommait Anne et Caïphe, et il garde encore ses noms devant le Fils de Dieu. Oh, tandis qu'il l'attachait à la croix, moi, j'étais le bon larron, pendu à son côté. Il leva son bâton vers Neuilly. De Chartres, mon ami, ne pensez-vous pas que le boulevard Binot poudroie là-bas, à droite ? Adieu, monsieur Choulette, dit Thérèse, et ne m'oubliez pas quand vous serez sénateur. « Madame, je ne vous oublie en aucune de mes oraisons, tant matinale que vespérale. Et je dis adieu, puisque, dans votre colère, vous lui avez donné la richesse et la beauté. Regardez-la, Seigneur, avec mansuétude, et traitez-la selon votre grande miséricorde. » Et il s'en alla, raide et traînant la jambe, par l'avenue populeuse. Chapitre 30. Enveloppée d'une mante de drap rose, Thérèse descendit avec de Chartres les degrés du perron. Il était arrivé le matin à Joinville. Elle l'avait fait venir dans le petit cercle des intimes, avant les chasses à cour où elle craignait que le Ménil, dont elle n'avait pas de nouvelles, fût invité cette année comme à l'ordinaire. L'air léger de septembre agitait les boucles de ses cheveux, et le soleil penchant faisait briller des points d'or dans le gris profond de ses prunelles. Derrière eux, la façade du château étalait, au-dessus des trois arcades du rez-de-chaussée, dans les intervalles des fenêtres, sur de longues consoles, des bustes d'empereurs romains. Le corps principal de la maison était resserré entre deux hauts pavillons que haussaient encore sous leur grand toit d'ardoise un ordre démesuré de piliers ioniques. Et à cette disposition se reconnaissait l'art de l'architecte Levaux, qui avait construit en 1650 le château de Joinville-sur-Oise pour ce riche Mareuil, créature de Mazarin et complice heureux du surintendant Fouquet. Thérèse et Jacques voyaient devant eux les parterres dont les fleurs formés de grands rinceaux dessinés par le nôtre, le tapis vert, le bassin, puis la grotte avec ses cinq arcades rustiques et ses thermes géants, couronnés par les grands arbres sur lesquels l'automne avait déjà commencé de mettre sa pourpre et son or. « C'est beau tout de même, dit de Chartres, cette géométrie verdoyante. « Oui, dit Thérèse, mais je songe aux platanes, penché dans la petite cour où l'herbe pousse entre les pierres. Nous y construirons une belle fontaine, n'est-ce pas ? et nous y mettrons des fleurs. » Appuyé contre l'un des lions de pierre au visage presque humain qui veillait sur les fossés comblés au bas des marches, elle se retourna vers le château et, regardant une des lucarnes en gueule de loup dragon ouverte au-dessus de la corniche, « Mais c'est là qu'est votre chambre. J'y suis monté hier soir. Au même étage, de l'autre côté, tout au bout, est le bureau de papa. Une table de bois blanc, un cartonnier en acajou, une carafe sur la cheminée, son cabinet de jeune homme. Toute notre fortune en est sortie. » Par les chemins sablés des parterres, ils gagnèrent le mur de buis qui bordait le parc du côté du midi. Ils passèrent devant l'orangerie, dont la porte monumentale était surmontée de la croix lorraine de Mareuil, et s'engagèrent ensuite dans l'allée de tilleuls, au long du tapis vert. Sous les arbres, à demi défeuillés, des statues de nymphes frissonnaient dans l'ombre humide, semée de pâles lumières. Un pigeon, posé sur l'épaule d'une des femmes blanches, s'envola. De temps à autre, un souffle de vent détachait d'une feuille séchée qui tombait, coquille d'œil rouge, où restait une goutte de pluie. Thérèse montra la nymphe et dit « Elle m'a vu lorsqu'enfant, j'avais envie de mourir. Je souffrais de désir et de peur. Je vous attendais, mais vous étiez si loin. » L'allée des tilleuls s'interrompait au niveau du rond-point occupé par le grand bassin, au milieu duquel s'élevait un groupe de tritons et de néréides, soufflant dans leurs conques pour former, lorsque jouaient les eaux, un diadème liquide aux fleurons d'écume. « C'est la couronne de Joinville, » dit-elle. Elle montra un sentier qui, partant du bassin, allait se perdre dans la campagne, du côté du Levant. « Voici mon chemin. Oh, que de fois je m'y suis promené tristement. J'étais triste quand je ne vous connaissais pas. » Ils retrouvèrent l'allée qui, avec d'autres tilleuls et d'autres nymphes, cheminait au-delà du rond-point. Et ils la suivirent jusqu'aux grottes. C'était, dans le fond du parc, un hémicycle de 5 grandes niches de rocailles, surmontées de balustres et séparées par des thermes géants. L'un de ces thermes, à l'angle du monument, les dominait de sa nudité monstrueuse et abaissait sur eux son regard de pierre farouche et doux. « Quand mon père acheta Joinville, dit-elle, les grottes n'étaient qu'un monceau de décombres plein d'herbes et de vipères. Des milliers de lapins y avaient fait leurs trous. Il a rétabli les thermes et les arcades d'après les estampes de Perel, conservées à la bibliothèque. Il a été lui-même son architecte. » Un désir d'ombre et de mystère les conduisit vers la charmille qui couvre le flanc des grottes. Mais un bruit de pas qu'ils entendirent venant de l'allée couverte les fit s'arrêter un moment. Et ils virent à travers le feuillage Montessui qui tenait par la taille la princesse Séniavine. Très tranquille, ils allaient vers le château. Jacques et Thérèse, rencoignés sous l'énorme terme, attendirent qu'ils furent passés. Puis elle dit à de Chartres, qui la regardait en silence, « C'est tout de même fort. Je comprends maintenant pourquoi cet hiver, la princesse Séniavine demandait conseil à papa pour acheter des chevaux. Cependant, Thérèse admirait son père d'avoir conquis cette belle femme, qui passait pour difficile et qu'on savait riche, malgré les embarras où la mettait son désordre fou. Elle demanda à Jacques s'il ne trouvait pas la princesse très belle. Il lui reconnaissait de l'allure avec une saveur de chair trop forte à son gré. Elle était belle, sans doute, mais il devinait sur ses formes de brune la médaille noire et les coulées de safran. Thérèse reprit que c'était possible et que pourtant, le soir, la princesse Séniavine effaçait les autres femmes. Elle mena Jacques aux escaliers moussus qui, montant derrière les grottes, conduisaient à la gerbe de l'Oise, formée d'une touffe de roseaux de plomb au milieu d'une vasque de marbre rose. Là se levaient les grands arbres qui fermaient la perspective du parc et commençaient les bois. Ils allèrent sous les hautes futaies. Ils se taisaient dans le gémissement faible des feuilles. Au-delà du rideau magnifique des ormes, s'étendaient les halliers coupés de bouquets de trembles et de bouleaux, dont l'écorce pâle s'allumait d'un dernier rayon de soleil. Il la pressa dans ses bras et lui mit des baisers sur les paupières. La nuit descendait du ciel, les premières étoiles tremblaient entre les branches. Dans l'herbe mouillée soupirait la flûte des crapauds. Ils n'allèrent pas plus avant. Quand elle reprit avec lui dans la nuit le chemin du château, il lui restait aux lèvres un goût de baiser et de menthe, et dans les yeux l'image de son ami qui, debout au tronc d'un bouleau, semblait un faune, tandis que, soulevée dans ses bras, les mains nouées à la nuque, elle se mourait de volupté. Elle sourit sous les tilleuls aux nymphes qui avaient vu les larmes de son enfance. Le cygne levait dans le ciel sa croix d'étoile, et la lune mirait sa corne fine au bassin de la couronne. Les insectes dans l'herbe jetaient des appels d'amour. Au dernier détour de la muraille de buis, Thérèse et Jacques découvrirent la triple masse noire du château, et par les grandes baies du rez-de-chaussée, ils devinaient dans la rouge lumière des formes qui se mouvaient. La cloche sonnait. Thérèse s'écria « Oh, je n'ai que le temps de m'habiller pour le dîner !» Et elle s'échappa devant les lions de pierre, laissant à son ami comme une vision de conte de fées. Dans le salon, après le dîner, M. Berthier des Ailes lisait le journal et la princesse Seniavine, devant la table de jeu, faisait une réussite. Thérèse, les yeux mi-clos sur un livre et sentant aux chevilles la piqûre des épines enjambées dans les taillis, derrière la gerbe de l'Oise, se rappelait en frissonnant l'ami qu'il avait prise dans les feuilles comme un faune jouant avec une nymphe. La princesse lui demanda si c'était amusant ce qu'elle lisait là. « Bon, je ne sais pas, je lisais, je songeais. Paul Vance a raison, nous ne trouvons que nous dans les livres. » À travers les tentures venaient de la salle de billard les voix brèves des joueurs et le bruit sec des billes. « Réussite !» s'écria la princesse en jetant les cartes. Elle avait mis une grosse somme sur un cheval qui courait ce jour-là au cours de Chantilly. Thérèse dit qu'elle avait reçu une lettre de Fiesole. Miss Bell lui annonçait son prochain mariage avec le prince Eusebio Ardel Tinelli de La Spina. La princesse se mit à rire. « Ah, ben voilà un homme qui lui rendra un fameux service !»« Mais lequel ?» demanda Thérèse. « Celui de la dégoûtée des hommes, pardi !» Montessui entra dans le salon très gai. Il avait gagné la partie. Il s'assit à côté de Berthier des Ailes et, prenant un journal déployé sur le canapé, « Bon, le ministre des Finances annonce qu'il déposera à la rentrée son projet de loi sur les caisses d'épargne. » Il s'agissait d'autoriser les caisses d'épargne à prêter de l'argent aux communes, ce qui eût retiré aux établissements que dirigeait Montessui leur meilleure clientèle. « Berthier, demanda le financier, êtes-vous résolument hostile à ce projet ?» Berthier inclina la tête. Montessui, se levant, posa la main sur l'épaule du député. « Bon, cher Berthier, j'ai l'idée que le ministère tombera au début de la session. » Il s'approcha de sa fille. « J'ai aussi une lettre bizarre de Leménil. » Thérèse alla refermer la porte qui séparait le salon du billard. Elle craignait, disait-elle, les courants d'air. « Une lettre singulière, reprit Montessui. Le Béni ne viendra pas chasser à Joinville. Il a acheté un yacht de 80 tonneaux, Rosebud. Il navigue dans la Méditerranée et ne veut plus vivre que sur l'eau. C'est dommage, il n'y a que lui qui sache mener la chasse. » À ce moment, de Chartres entra dans le salon avec le comte Martin, qui, après l'avoir battu au billard, l'ayant prise en amitié, lui exposait les dangers d'un impôt basé sur le train de maison et le nombre des domestiques. Chapitre 31. Un pâle soleil d'hiver perçant les brumes de la Seine éclairait sur les portes de la salle à manger les chiens d'Oudry. Madame Martin avait à sa droite le député Garin, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil, à sa gauche, monsieur le sénateur Loyer. À la droite du comte Martin Bellem, monsieur Berthier des Ailes, et intime et sobre déjeuner d'affaires. Conformément aux prévisions de Montessuie, le ministère était tombé 4 jours auparavant. Appelé le matin même à l'Élysée, Garin avait accepté la tâche de former un cabinet. Il préparait en déjeunant la combinaison qui devait être soumise dans la soirée au président. Et tandis qu'ils agitaient des noms, Thérèse revoyait en elle-même les images de sa vie intime. Elle était revenue à Paris avec le comte Martin dès la rentrée des chambres, et depuis ce moment elle menait une vie enchantée. Jacques l'aimait. Il l'aimait avec un mélange délicieux de passion et de tendresse, d'expérience savante et d'ingénuité curieuse. Il était nerveux, irritable, inquiet. Mais l'inégalité de son humeur donnait plus de prix à sa gaieté. Cette gaieté artiste, éclatant soudain comme une flamme, caressait l'amour sans l'offenser. Et c'était l'émerveillement de Thérèse que ce rire spirituel de son ami. Elle n'aurait jamais imaginé ce goût sur qui il mettait naturellement dans les caprices joyeux et dans la fantaisie familière. Au premier temps, il ne lui avait montré qu'une ardeur monotone et sombre. Et cela seul l'avait prise. Mais depuis, elle avait découvert en lui une âme gaie, abondante et diverse, une grâce unique dans la sensualité, le don de flatter, de contenter toute l'âme avec la chair. « Un ministère homogène !» s'écria Garin. « C'est bientôt dit. Il n'en faut pas moins s'inspirer des tendances propres aux différentes fractions de la Chambre. » Il était inquiet. Il se voyait entouré d'autant d'embûches qu'il en avait dressées. Ses collaborateurs eux-mêmes lui devenaient hostiles. Le comte Martin voulait que le nouveau ministère répondît aux aspirations de l'esprit nouveau. « Votre liste est formée de personnalités qui diffèrent essentiellement d'origine et de tendance, dit-il. Or, c'est peut-être le fait le plus considérable de l'histoire politique de ces dernières années que la possibilité, je dirais la nécessité, d'introduire l'unité de vue dans le gouvernement de la République. Ce sont des idées, mon cher Garin, que vous avez exprimées vous-même avec une rare éloquence. » Monsieur Berthier des Ailes se taisait. Le sénateur Loyer roulait dans ses doigts des boulettes de mie de pain. Antique habitué des brasseries, c'est en pétrissant des miettes ou en taillant des bouchons qu'il trouvait des idées. Il leva sa face couperosée d'où portait une barbe sale. Et regardant Garin avec des yeux bridés où pétillait un petit feu rouge. Je l'ai dit, on n'a pas voulu me croire. L'anéantissement de la droite monarchique a été pour les chefs du Parti républicain un malheur irréparable. On gouvernait contre elle. Le véritable appui d'un gouvernement, c'est l'opposition. L'Empire a gouverné contre les orléanistes et contre nous. Le 16 mai a gouverné contre les républicains. Plus heureux, nous avons gouverné contre la droite. La droite, quelle bonne opposition c'était! Menaçante, candide, impuissante, vaste, honnête, impopulaire. Mais il fallait la garder. On n'a pas su. Et puis, disons-le, tout s'use. Cependant, il faut toujours gouverner contre quelque chose. Il n'y a plus aujourd'hui que les socialistes pour nous donner l'appui que la droite nous a prêté 15 ans, avec une si constante générosité. Mais ils sont trop faibles, il faudra les renforcer, les grandir, en faire un parti politique. C'est alors qu'il est le premier devoir d'un ministre de l'Intérieur. » Garin, qui n'était pas cynique, ne répondit rien. « Garin, vous ne savez pas encore, demanda le comte Martin, si avec la présidence, vous prenez les Sceaux ou l'Intérieur ?» Garin répondit que sa décision dépendait du choix que ferait N, dont la présence était nécessaire dans le cabinet et qui hésitait encore entre les deux portefeuilles. Lui, Garin, sacrifiait ses convenances personnelles aux intérêts supérieurs. Le sénateur Loyer grimaça dans sa barbe. Il convoitait les sceaux. Ce désir venait de loin. Répétiteur de droit sous l'Empire, il donnait, devant les tables des cafés, des leçons appréciées. Il avait le sens de la chicane. Ayant commencé sa fortune politique par des articles adroitement faits pour lui valoir des poursuites, des procès et quelques semaines de prison, il avait considéré, depuis lors, la presse comme une arme d'opposition que tout bon gouvernement devait briser. Depuis le 4 septembre 1870, il rêvait de devenir garde des Sceaux pour qu'on vît comment le vieux bohème, l'habitué de Pélagie au temps de Badinguet, le répétiteur de droit qui jadis expliquait le code en soupant d'une choucroute garnie, saurait se montrer chef suprême de la magistrature. Des Sceaux par douzaines lui avaient grimpé sur le dos. Vieilli dans les médiocres honneurs du Sénat, mal décrassé, accoquiné à une fille de brasserie, pauvre, paresseux, désabusé, son vieil esprit jacobin et son mépris sincère du peuple, survivant à ses ambitions, faisaient de lui encore un homme de gouvernement. Cette fois, entré dans la combinaison Garin, il croyait tenir la justice. Et son protecteur, qui ne lui donnait pas, devenait un rival importun. Il ricana, occupé à modeler dans la bite pain un petit caniche. M. Berthier des Ailes, très calme, très grave, très morne, caressa ses beaux favoris blancs. « Ne pensez-vous pas aussi, M. Garin, qu'il conviendrait de faire une place dans le cabinet aux hommes qui ont suivi, dès la première heure, la politique vers laquelle nous nous orientons aujourd'hui ?» « Mais ils s'y sont perdus, » répliqua Garin impatienté. « Un homme politique ne doit pas devancer les circonstances. C'est un tort que d'avoir raison trop tôt. On ne fait pas les affaires avec des penseurs. Et puis, pardon franc, si vous voulez un ministère centre-gauche, dites-le, me retire. Mais je vous avertis que ni la Chambre ni le pays ne seront avec vous. » « Il est évident, » dit le comte Martin, « qu'il faut s'assurer une majorité. » Mais avec ma liste, elle est faite, notre majorité, dit Garin. C'est la minorité qui a soutenu le ministère contre nous, plus les voix que nous en avons détachées. Messieurs, faites appel à votre dévouement. Et la distribution laborieuse des portefeuilles recommença. Le comte Martin reçut d'abord les travaux publics, qu'il refusa, faute de compétences, et ensuite les affaires étrangères, qu'il accepta, sans objection. Mais M. Berthier des Ailes, à qui Garin offrait le commerce et l'agriculture, se réserva. Loyer fut mis aux colonies. Il semblait très occupé à faire tenir sur la nappe son caniche de mie de pain. Cependant, il regardait du coin de son petit œil ridé la comtesse Martin et il la trouvait désirable. Il entrevit vaguement le plaisir de la revoir à l'avenir avec un peu d'intimité. Laissant Garin se débattre, il s'occupait de cette jolie femme, cherchait à deviner ses goûts et ses habitudes. Il demandait si elle aimait le théâtre, si elle allait quelquefois le soir au café avec son mari. Et Thérèse commençait à le trouver plus intéressant que les autres, sous sa crasse épaisse, avec son ignorance du monde, dans son cynisme superbe. Garin se leva. Il fallait qu'il vît encore N avant de porter sa liste au président de la République. Le comte Martin offrit sa voiture, mais Garin avait la sienne. « Ne pensez-vous pas, » demanda le comte Martin, « que le président puisse faire des objections sur quelques noms ?»« Le président, » répondit Garin, « s'inspira des nécessités de la situation. » Il avait déjà passé la porte quand il revint, se frappant le front. « Ah, nous avons oublié le ministre de la guerre !»« Bon, vous trouverez facilement parmi les généraux, » dit le comte Martin. « Ah, ah !» s'écria Garin, Vous croyez que le choix d'un ministre de la guerre est facile. On voit bien que vous n'avez pas, comme moi, fait partie de 3 cabinets et présidé le Conseil. Dans mes ministères et durant ma présidence, les difficultés les plus épineuses sont toujours venues du ministre de la guerre. Les généraux sont tous les mêmes. Celui que j'avais choisi dans le cabinet que j'ai formé, vous le connaissez. Nous l'avions pris étranger aux affaires. Il savait à peine qu'il y eut 2 chambres. Et il a fallu lui expliquer tous les rouages du mécanisme parlementaire, lui apprendre qu'il y avait une commission de l'armée, une commission des finances, des sous-commissions, des rapporteurs, une discussion du budget. Il a demandé qu'on lui mit tous ses renseignements sur un petit morceau de papier. Son ignorance des hommes et des choses nous effrayait. Et bien, au bout de 15 jours, il savait les tours les plus fins du métier. Il connaissait personnellement tous les sénateurs et tous les députés, et il intriguait avec eux contre nous. Sans le secours du président Grévy, qui se méfiait des militaires, il nous culbutait. Et c'était un général très ordinaire, un général comme les autres. Oh non, 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 ne croyez pas que le portefeuille de la guerre puisse être donné à la hâte, sans réflexion. Et Garin, se rappelant son ancien collègue du boulevard Saint-Germain, frissonnait encore. Il sortit. Thérèse se leva. Le sénateur Loyer lui offrit le bras avec les belles attitudes arrondies qu'il avait apprises 40 ans auparavant à Bullier. Elle laissa les hommes politiques au salon. Elle avait hâte de retrouver de Chartres. Des brumes rousses couvraient la Seine, les quais de pierre et les platanes dorées. Le soleil rouge jetait dans le ciel nuageux les dernières gloires de l'année. Thérèse, en sortant de chez elle, goûta délicieusement la savoureuse âpreté de l'air et la splendeur mourante du jour. Depuis son retour à Paris, heureuse, elle s'égayait chaque matin de la nouveauté du temps. Il lui semblait, dans son égoïsme généreux, que c'était pour elle que le vent soufflait dans les arbres déchevelés, ou que le gris fin de la pluie trempait l'horizon des avenues, ou que le soleil traînait dans le ciel frileux son bloc refroidi. Pour elle, et afin qu'elle pût dire en entrant dans la petite maison des Ternes, « Il fait du vent, il pleut, le temps est agréable », mettant ainsi l'océan des choses dans l'intimité de son amour. Et tous les jours se levait beau pour elle, puisqu'il la ramenait tous dans les bras de son ami. Tandis qu'elle allait ce jour-là, comme les autres jours, à la petite maison des Ternes, elle songeait à son bonheur inattendu, si plein, et dont elle se sentait enfin assurée. Elle marchait dans cette dernière gloire du soleil, déjà touchée par l'hiver, et elle se disait « Il m'aime. Oh, je crois qu'il m'aime tout à fait. » Aimer lui est plus facile et plus naturel qu'aux autres hommes. Ils ont dans la vie des idées supérieures à eux, une foi, des habitudes, des intérêts. Ils croient en Dieu ou à des devoirs ou à eux-mêmes. Et lui, il ne croit qu'à moi. Je suis son Dieu, son devoir et sa vie. Puis elle songea, oh, « C'est vrai aussi qu'il n'a besoin de personne, pas même de moi. » Sa pensée est un monde magnifique où il pourrait vivre aisément. Mais moi, je ne peux pas vivre sans lui. Qu'est-ce que je deviendrais si je ne l'avais plus ? Elle se rassurait sur ce goût violent, sur cette habitude charmée qu'il avait pris d'elle. Elle se rappelait qu'il lui avait dit un jour « Tu n'as pour moi qu'un amour sensuel, je ne m'en plains pas. C'est peut-être le seul vrai. » Et il lui avait répondu « C'est aussi le seul grand et le seul fort. Il a sa mesure et ses armes. Il est plein de sens et d'images. Il est violent et mystérieux. Il s'attache à la chair et à l'âme de la chair. Le reste n'est qu'une illusion et mensonge. » Elle était presque tranquille dans sa joie. Les soupçons, les inquiétudes s'en étaient allés comme les nuées d'un orage d'été. Le plus mauvais temps de leur amour, ça avait été lorsqu'ils étaient loin de l'autre. ne faut jamais se quitter quand on s'aime. » À l'angle de l'avenue Marceau et de la rue Galilée, elle devina, plutôt qu'elle ne la reconnut, une ombre qui l'avait effleurée, une forme oubliée. Elle crut, elle voulut s'être trompée. Celui qu'elle avait pensé voir n'existait plus, n'avait jamais existé. C'était un fantôme vu dans les limbes d'un monde antérieur, dans les ténèbres d'une demi-vie. Et elle allait, gardant de cette rencontre indécise une impression de froid, de gêne vague, un serrement de cœur. Comme elle montait l'avenue, elle vit dévaler vers elle les porteurs de journaux qui tenaient à bras tendus les feuilles du soir, annonçant en grosses lettres le nouveau ministère. Elle traversa la place de l'Étoile. Ses pas suivaient l'impatience de son désir. Elle voyait Jacques l'attendant au pied de l'escalier, parmi les figures nues de marbre et de bronze, la prenant dans ses bras et la portant déjà amortie et frémissante de baisers, jusqu'à cette chambre pleine d'ombre et de délices où la douceur de vivre lui faisait oublier la vie. Mais, dans la solitude de l'avenue MacMahon, l'ombre déjà entrevue à l'angle de la rue Galilée s'approcha, se dressa près d'elle avec une précision banale et pénible. Elle reconnut Robert Leménil, qui, l'ayant suivi depuis le quai de Billy, la joignait à l'endroit le plus tranquille et le plus sûr. Son air, son attitude, laissait voir cette limpidité d'âme qui avait plu à Thérèse autrefois. Son visage, naturellement dur, assombri par le hâle et l'embrun, un peu creusé, très calme, cachait de laisser voir une souffrance profonde. « J'ai à vous parler. » Elle ralentit le pas. Il marcha à son côté. « J'ai cherché à vous oublier. » Après ce qui s'était passé, c'était bien naturel, n'est-ce pas? J'ai tout fait pour cela. Il valait mieux vous oublier, bien sûr. Mais je n'ai pas pu. Alors j'ai acheté un bateau et j'ai navigué pendant 6 mois. Vous savez, peut-être. Elle fit signe qu'elle savait. Il reprit. Au but d'un joli yacht de 80 tonneaux. J'avais 6 hommes d'équipage. Je manœuvrais avec eux. Bon, c'était une distraction. Il se tut. Elle allait lentement, attristée et surtout ennuyée. C'était pour elle une chose absurde et pénible au-delà de tout d'écouter ces paroles étrangères. Il reprit. Oh, ce que j'ai souffert sur ce bateau, j'aurais honte de vous le dire. Elle sentit qu'il disait vrai et détourna la tête. « Oh, je vous pardonne, j'ai beaucoup réfléchi seul. J'ai passé des jours et des nuits étendu sur le divan du deckhouse. Je retournais sans cesse les mêmes idées dans ma tête. J'ai réfléchi pendant ces 6 mois, plus que je n'avais fait dans toute ma vie. Non, ne riez pas. La douleur, il n'y a rien de tel pour élargir l'esprit. J'ai compris que si je vous avais perdu, c'était de ma faute. Il fallait savoir vous garder. Et couché à plat ventre, tandis que Rosamond filait sur la mer, je me disais, je n'ai pas su, oh, si c'était à recommencer. À force de penser et de souffrir, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas entré suffisamment dans vos goûts et dans vos idées. Vous êtes une femme supérieure, je n'en étais pas aperçu, parce que ce n'était pas pour cela que je vous aimais. Sans m'en douter, je vous agaçais, je vous froissais. » Elle secoua la tête. Il insista. « Si, si, je vous ai souvent froissé. Je ne ménageais pas, c'est votre délicatesse. » Il y a eu des malentendus entre nous. Bon, cela tient à ce que nous n'avons pas la même nature. Et puis je n'ai pas su vous distraire. Je n'ai pas trouvé les amusements qu'il vous faut. Je ne vous ai pas procuré le genre de plaisir qui convient à une femme intelligente comme vous. Si simple et si vrai dans ses regrets, dans sa douleur, elle le trouvait tout de même sympathique. Elle lui dit doucement « Mon ami, je n'ai pas eu à me plaindre de vous. » Il reprit « Tout ce que je vous dis là est vrai. Je l'ai compris, tout seul, au large, dans mon bateau. J'y ai passé des heures que je ne souhaiterais pas à l'homme qui m'a causé le plus de mal. Bien des fois, j'ai eu envie de me jeter à l'eau. Je ne l'ai pas fait. Est-ce à cause de mes principes religieux et de mes sentiments de famille ou parce que je n'ai pas eu le courage ? Je ne sais pas. C'était peut-être que, de loin, vous me reteniez dans la vie. J'étais attiré vers vous, puisque me voilà. Depuis 2 jours, je vous guette. Je n'ai pas voulu reparaître chez vous. Je ne vous aurais pas trouvé seul, je n'aurais pas pu vous parler. Et vous étiez forcé de me recevoir. J'ai trouvé mieux de vous parler dans la rue. C'est encore une idée que j'ai eue en bateau. Je me suis dit, dans la rue, elle ne m'écoutera que si elle veut, comme il y a 4 ans dans le parc de Joinville, vous savez, sous les statues, près de la couronne. » Et il reprit avec un soupir rude, « Oui, comme à Joinville, puisque tout est à recommencer. Il y a 2 jours que je vous guette. Hier, il pleuvait, vous êtes sorti en voiture. J'aurais pu vous suivre, savoir où vous alliez. Bon, j'en avais bien envie, mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas faire ce qui vous déplairait. » Elle lui tendit la main. « Je vous remercie. Oh, je savais bien que je n'aurais pas à regretter la confiance que j'avais mise en vous. » Alarmée, impatiente, énervée, ayant peur de ce qu'il allait dire, elle essaya de rompre et de s'échapper. « Adieu, vous avez toute la vie devant vous. Vous êtes heureux. Sachez-le donc et ne vous tourmentez plus pour ce qui n'en vaut pas la peine. » Mais il l'arrêta d'un regard. Son visage avait pris cette expression violente et résolue qu'elle connaissait. « Oui, je vous ai dit que j'avais à vous parler. Écoutez-moi 1 minute. » Elle songeait à Jacques qui déjà l'attendait. De rares passants la regardaient et suivaient leur chemin. Elle s'arrêta sous les branches noires d'un arbre de Judée et attendit avec de la pitié et de la peur dans l'âme. Il lui dit « Ben me voici, je vous pardonne et j'oublie tout. Reprenez-moi, je vous promets de ne jamais vous dire un mot du passé. » Elle tressaillit et laissa paraître un mouvement si naturel de surprise et de désolation qu'il s'arrêta. Puis, après un moment de réflexion, « Ce que je vous propose n'est pas ordinaire, je le sais bien, mais j'ai réfléchi, j'ai pensé à tout. C'est la seule chose possible. Pensez-y, Thérèse, et ne me répondez pas tout de suite. » « Non, ce serait mal de vous tromper. Je ne peux pas, je ne veux pas faire ce que vous dites. Et vous savez pourquoi ?» Un fiacre passait lentement près d'eux. Elle fit signe au cocher qui s'arrêta. Il arrêta un moment encore. « J'ai prévu que vous me diriez cela. C'est pourquoi je vous dis, ne répondez pas tout de suite. » La main sur la poignée de la portière, elle tourna sur lui le regard de ses prunelles grises. Ce fut pour lui le moment douloureux. Il se rappela le temps où il voyait ses prunelles d'un gris charmant couler sous les paupières mi-closes. Il retint un sanglot dans sa poitrine et murmura d'une voix étranglée « Écoutez, je ne peux pas vivre sans vous, je vous aime. C'est maintenant que je vous aime, avant je ne savais pas. » Et pendant qu'elle jetait au hasard l'adresse d'une modiste, il s'éloigna de son allure souple et vive, un peu saccadée cette fois. Elle gardait de cette rencontre un malaise et une inquiétude. Puisqu'elle devait le revoir, elle aurait mieux aimé le retrouver violent et brutal comme à Florence. À l'angle de l'avenue, elle cria vivement au cocher « Rue de Mour, au terne !»